Radio Germaine.
Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine.
Saison 13.
Bonsoir, c'est Popcorn Salé, je suis Pauline et je suis en compagnie de Valentine.
Bonsoir.
Paul.
Bonsoir.
Arthur.
Bonsoir.
Thaïs.
Bonsoir.
Margot.
Bonsoir.
Juliette.
Bonsoir.
Costal.
Bonsoir.
Et Enora.
Bonsoir.
Ce soir, on va parler de la vie de ma mère, des carnets de Siegfried et de la salle des profs. Et on commence avec un sujet d'actu sur la fermeture des salles de ciné et en particulier la fermeture du UGC Normandie. Non. Alors Arthur, explique-nous.
Non. Oui, en effet. Alors c'est un peu en suspens en ce moment parce que apparemment il y aurait des tractations au sein du UGC pour savoir si le UGC Normandie, mythique cinéma des Champs-Élysées, va-t-il fermer en fait en juin prochain. Il faut savoir que le UGC Normandie, c'est la deuxième plus grande salle de Paris. Enfin, la principale salle du UGC Normandie est la deuxième plus grande salle de Paris, juste derrière le Grand Rex. Et elle était juste devant la grande salle du Bretagne, qui a aussi fermé il y a 6 mois. Et c'est très intéressant de prendre ces deux cinémas-là, puisque ce sont deux cinémas qui appartenaient du coup à deux plus grosses firmes de cinéma, donc c'est-à-dire les UGC et le Pathé pour le Bretagne, et qui étaient aussi deux mastodontes en termes de place pardon, dans la salle de cinéma. Et qui signe du coup la fin d'une époque, la fin de ces gigantesques salles, la fin de ces cinémas en mode théâtre où vous avez une seule grande salle, un seul grand film qui est diffusé. Et ça pose aussi des questions. Alors on peut parler bien sûr de toutes les fermetures de salles qu'on a pu connaître, alors que ce soit dans vos villes d'enfance ou dans Paris. Ce qui est assez intéressant, c'est que les Champs-Élysées, qui étaient avant un lieu mythique du cinéma, se vide petit à petit. Aujourd'hui, il ne reste plus que le Publicis, qui est tout en haut des Champs-Élysées, si jamais vous voulez y passer, qui est ouvert. Mais du coup, avec la disparition du Normandie, ça suivrait la longue liste des cinémas des Champs-Élysées qui ont disparu, comme le Gaumont Champs-Élysées, le UGC Georges V, les UGC Champs-Élysées, les UGC Gaumont Parnasse Champs-Élysées, le Biarritz, l'Ermitage, le Lord Byron, le Paramount Mercury, tout le monde a fermé.
Si je peux me permettre,
le Cine-Express.
Arthur, le Lincoln, il est toujours ouvert, il est pas sur les Champs-Élysées, pas très loin.
Le Lincoln, il est fermé.
Non, le Lincoln, il est ouvert.
My bad, il en reste deux du coup.
Diffusion de fausses informations sur cette émission.
Non, mais en tout cas, il est pas sur les champs. C'est le truc, c'est être sur les champs.
J'ai dit qu'il est pas sur les champs. Il est genre littéralement
non,
à côté.
Mais c'est le truc de se dire sur les champs qui était avant, un peu comme les grands boulevards. Un des endroits mythiques de Paris pour ces cinémas, c'est très nombreux cinémas. En fait, ce sont deux boulevards en fait, qui sont complètement dépeuplés.
Les grands boulevards, ça va. Le Linder tient encore, le Rex aussi.
Non, il y en a beaucoup moins. Mais c'est les deux quartiers de Paris qui ont complètement vu se dépeupler du coup de cinéma, et encore plus fortement les Champs-Élysées, qui avaient une dizaine de salles et qui aujourd'hui en auraient plus qu'une si la fermeture du UGC Normandie se confirme, ce qui n'est pas encore fait, puisque la mairie de Paris a été. On a demandé en tout cas à la mairie de Paris de se mobiliser pour éviter la fermeture du cinéma. Je sais pas si vous avez quelque chose à parler de la fermeture du cinéma ou si vous en foutez parce que vous avez aucun cœur.
Bah, moi je trouve que c'est quand même pour le meilleur parce qu'on a maintenant plusieurs magasins Louis Vuitton sur le
hôtel. On a un hôtel.
Ça m'arrange quand même.
Pour t'acheter un petit manteau en fourrure.
Ouais, bah bien sûr. Pour porter la mort animale, bien sûr.
Non, moi j'ai seulement une petite anecdote à raconter, c'est que juste avant d'apprendre cette nouvelle dramatique qui est la probable fermeture du UGC Normandie, je me suis moi-même rendue au UGC Normandie et j'ai passé un très mauvais moment, premièrement parce que les Champs-Élysées c'est vraiment ma phobie sur terre, et petite 2, parce que j'ai dû attendre 10 minutes à la caisse avant de prendre mon ticket, le temps qu'une vieille emmerde le pauvre caissier qui était totalement désespéré et du coup très passif-agressif, où elle s'offusquait de savoir que le tarif plein UGC était désormais s'élevait désormais à 15 euros, et elle a dit au petit caissier, enfin au pauvre caissier qui n'était pas petit d'ailleurs, je ne comprends pas que vous n'ayez toujours pas fermé votre cinéma. Et c'est vrai que je me suis dit putain c'est vrai, c'est marrant qu'ils aient toujours pas fermé, et bah voilà ils vont fermer, donc c'est la fin de mon anecdote.
Ouais,
belle anecdote très parlante. Non mais après je pense qu'on peut faire une petite distinction aussi entre la fermeture des grands complexes, et notamment du coup des UGC, là peut-être du UGC Normandie, et des plus petits cinémas, parce que ça n'a pas non plus les mêmes répercussions en termes économiques, en termes de vie culturelle, etc. Et c'est vrai qu'on avait déjà fait un épisode il n'y a pas si longtemps sur la nouvelle politique économique du UGC, mais je ne sais pas si vous allez souvent au UGC, mais maintenant ils ont mis un truc en place qui moi m'énerve énormément et j'aimerais passer un coup de gueule. En fait quand tu vas au UGC tu dois réserver une place avant. Donc tu as une place comme littéralement dans l'avion. Et donc évidemment il y en a qui ne respectent pas, il y en a qui respectent, ça crée des conflits en plus. Pour rien, enfin je veux dire premier arrivé, premier servi.
Juliette est très énervée par ça.
Exactement. Non, mais le fait de vouloir mettre de l'avion partout, moi, ça me stresse. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense que voilà, c'est selon ma propre analyse personnelle, je pense que c'est une des raisons pour laquelle le UGC Normandie va fermer. Les gens vont moins au UGC parce que maintenant ils doivent choisir leur place. Voilà.
MK2 fait ça aussi. Hein, c'est un truc qui se démocratise sur.
MK2, ils font.
MK2, il y a quelques salles où je les ai vus faire ça. Ça dépend des.
Lesquels?
Les pâtés font ça pour moi.
Les pâtés font.
Voilà, c'est
ça.
C'est les pâtés font ça, mais justement, pâté MK2, c'est quand même deux lignes éditoriales qui sont super différentes.
Ouais, pâté, c'est la merde.
Elle est assez douce si elle veut être interviewée dans cette émission. Thaïs, qui est aussi présente, adore pâté et ne pense pas ce qui a été dit.
Pâté.
Elle a vraiment, elle est en désaccord. Vous ne la voyez pas, mais depuis tout à l'heure, elle fait non de la tête. Elle est rompue.
Du coup, on passe au carnet de Siegfried que Paul nous présente.
Alors, Les Carnets de Siegfried, c'est un film britannique réalisé par Terence Davis, dont c'est le film posthume puisqu'il est mort il y a maintenant 2 ans. Le film est sorti, je crois, l'année.
Il est mort en octobre.
Il est mort l'année dernière. Je suis perdu dans le temps et l'espace. Il est mort l'année dernière et il sort donc en début d'année. Et c'est un film de Terence Davis qui va suivre la vie du poète Siegfried Sassoon.
Non. Sassoon.
Le grand poète.
Le grand poète Siegfried Sassoon. Ok. Notamment connu pour son engagement contre la Première Guerre mondiale. Qu'on va suivre finalement sa participation en tant que soldat à la seconde, à la première, pardon, à plus ou moins finalement la fin de sa vie, ses rencontres, ses amants, ses amours, son héritage, son rapport à la musique et à la société et la petite bourgeoisie britannique de l'entre-deux-guerres. Et bien, Costal, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bon, oui, tu l'as dit, c'est un film anglais sur l'amour, sur la guerre. Original, ça fait pas du tout BBC télé, mais donc j'ai trouvé que c'était un film qui était extrêmement british, mais dans le bon côté du terme, je trouve que c'est un film qui est très élégant et qui a une réalisation qui est très bien maîtrisée, très bien mesurée. Donc Terence Davis, il fait beaucoup de plans très longs, très frontaux et qui sont vraiment très méticuleux, où la place des personnages est tout le temps très calculée, qui sont souvent en frise, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on peut aimer ou pas, parce que du coup il y a un rythme qui est forcément assez lent et il n'y a pas énormément de mouvement, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui aide beaucoup à se mettre dans l'atmosphère aussi d'une époque donnée, donc ici après la Première Guerre mondiale. Et c'est, je trouve, également un film qui n'est pas un biopic classique, puisque à la fois il y a des parties pris de montage assez audacieux qui frisent parfois le mauvais goût, mais qui sont audacieux, ils ont le mérite d'être audacieux, et qui aussi intègre des images d'archives à la narration, donc ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue historique, et qui fait des allers-retours entre la vieillesse de Siegfried Sassoon, où il a 80 ans, je sais pas, enfin il est vieux quoi, et la période où il a 20 ans. Donc c'est aussi un film sur une période un peu plus récente de l'histoire, c'est pas du tout un film qui se cantonne juste aux années folles. Et donc je trouve que c'est un parti pris intéressant, parce que ça montre en fait le lien qu'il y a aussi entre notre époque aujourd'hui et le fait que ces générations-là, elles ont été totalement détruites par la Première Guerre mondiale et par la violence, et donc en particulier le regard qui porte sur ce groupe d'hommes homosexuels qui sont marginalisés, mais bon, enfin évidemment, et qui est assez normal.
C'est pas les homosexuels les plus marginalisés, c'est des gens qui dans l'ensemble sont très bien intégrés. C'est des très grands mondains,
c'est des mondains
très ouverts.
Oui, mais je
très...
trouve que oui, mais à la fois ils montrent cette vie mondaine qui aussi se convainc quelque part d'une légèreté, d'une insouciance qui a été un peu brisée par la Première Guerre mondiale et qui du coup cache un très grand désarroi, une très grande tristesse qui est, je trouve, aussi assez touchante dans le film. Mais c'est aussi du coup le portrait de ces hommes gays, déjà qui sont pas nombreux, hein. Donc les hommes gays qui sont mondains, il y en a 5 quoi, enfin en gros c'est le jeu de qui va sortir avec qui, à quel moment, ils sortent tous ensemble, bref voilà. Et non, mais je trouve que c'est assez touchant parce qu'on voit que ces hommes là, parce qu'ils ont vécu dans la guerre, ils sont un peu condamnés à pas vraiment savoir comment vivre leur vie. Et du coup, ils ont du mal à vivre des histoires d'amour, ils sont parfois violents, ils sont parfois un peu incompréhensibles aussi pour le regardeur, mais c'est quelque chose qui est quand même très touchant de voir à quel point ils sont perdus, et ils peuvent être parfois même méchants et sans cœur. Et du coup, le lien avec le présent est assez intéressant, je trouve, dans ce film, où en fait, c'est quelque chose qui n'est pas sans conséquences aussi pour la période actuelle, Et donc voilà, en ça, je pense que c'est un biopic qui, un biopic qui échappe au règle du biopic et qui est aussi très intéressant. Et aussi le fait que, enfin, t'as dit, il est notamment connu pour son engagement pacifiste. C'est vrai, il est un peu connu, mais très peu pour son œuvre au final, alors que c'était quand même un personnage qui avait des velléités poétiques, artistiques, qui étaient très grandes et qui ont été nettement brisées aussi par la Première Guerre mondiale. Et donc c'est vraiment touchant aussi de voir cet homme qui vieillit et qui au final se rend compte qu'il n'a pas trop vécu sa vie, quoi.
Ok, bah, je vais te rejoindre vraiment sur ce que tu as dit. Je trouve que c'est un film qui est très beau. La photographie est très très soignée avec, bah, tu as dit, un charme un peu british mais aussi très classique. Et voilà, c'est assez joli ce passage du noir et blanc à la couleur avec les archives, les poèmes en fond qui se mêlent assez bien et qui tombent pas comme un cheveu sur la soupe comme dans la plupart des films où on inclut des poèmes. C'est aussi, je trouve la forme est intéressante parce que c'est un biopic, mais un biopic fictif qui prend pas mal de liberté quand même et qui s'intéresse vraiment à une psyché des personnages qui, je pense, est pas... En fait, colle plus tête à la propre vie et aux propres perceptions de Terence Davis que à celle du poète. En fait, je pense qu'il projette pas mal de choses dessus, notamment dans son rapport à la musique qui est très présente dans le film. À la musique classique notamment et par rapport à la musique moderne qui pour le coup qu'il déteste et contre laquelle il s'emporte régulièrement. J'ai un petit problème sur le rythme quand même, c'est très lent, je trouve que ça marche bien, mais il y a quelques longueurs où, à certains moments, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, que le récit était peut-être un peu trop décousu. Je sais pas, il y a certaines scènes où je m'interrogeais, j'aurais aimé qu'elles soient mieux resituées au niveau du deuxième tiers à peu près. Il y a un passage où je trouve que ça pêche un petit peu, mais sinon c'est un film, ouais, qui est très beau, très mélancolique et voilà, et très subtil aussi. Le jeu d'acteur notamment, j'ai trouvé très très juste.
Eh ben, je suis pas du tout d'accord sur la photo, moi je la trouve très très moche. Après je vais revenir au positif, mais je trouve que vraiment la couleur est très laide, je trouve ça très froid, très numérique. Et c'est une discussion qu'on a vue à Costa, je trouve que ça fait un peu téléfilm BBC en fait, techniquement parfois. Il y a quelques difficultés sur les effets spéciaux. Soit c'est un film qui a eu du mal à être financé, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de maisons de prod pour un film indépendant comme ça. Soit c'est une décision artistique, et dans ce cas-là je suis juste pas d'accord avec la décision artistique, mais autant je trouve que la mise en scène est magnifique, autant je trouve que l'image est très très moche. Et ça m'a frappé parce que pour un film comme ça, qui justement, vous l'avez dit, est très éthéré, a un rythme qui est complètement bâtard, et c'est tout à fait un compliment, moi je comprends l'idée qu'on puisse perdre là-dessus, et c'est assez marrant parce que je suis arrivé sur 2 heures de sommeil au film, et en fait sur les 15 premières minutes j'ai failli m'endormir. D'ailleurs mon voisin de gauche l'a fait. Et finalement, je suis resté. Et une fois que je suis resté, c'est au moment où il y a une scène sur un court de tennis qui enchaîne sur un fondu enchaîné de deux hommes en train de nager, tout habillés dans des vêtements tout de blanc, de soie, dans une espèce de piscine un peu élyséenne. C'est pas mal. Et là, soudainement, il y a un truc qui clique et on commence peu à peu à prendre le rythme, ces fondus, ce montage très doux qui nous amène... effectivement directement dans l'intimité de ces gens. Et c'est peut-être le plus violent et le plus puissant dans ce film, c'est que c'est un film où on a l'impression constamment, alors que c'était des gens qui, de façon très britannique, n'expriment absolument rien à personne, et personne n'est jamais capable de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, attend 5 minutes que la scène se termine et après les gens s'en vont. Et c'est pas un problème, mais on a l'impression plus que tout d'être dans l'intimité de ces gens tout le temps, et une intimité qui fait extrêmement mal et qui est extrêmement violente. Et tu l'as dit, c'est des gens qui sont très violents, qui ont des cicatrices qui pour eux sont métaphoriques, mais qui, comme on nous le montre par certains montages, par ces souvenirs de l'hôpital dans lequel le poète reste à un moment où on voit en fait des gueules cassées qui sont pour certains très réelles et qui ne les expriment pas. Et ça, je trouve ça très très puissant. Effectivement, on peut aussi voir ça sous l'aune du testament. Ça, malheureusement, je connais très mal l'œuvre de Terence Davis, donc j'ai...
Mais c'était pas une œuvre testament parce qu'il était en train de commencer un nouveau film, donc c'est pas une œuvre testament. Mais après, ça signe un peu quand même... Enfin, il y a un peu cette...
Mais c'est un peu comme Clint Eastwood. Clint Eastwood qui produit un film tous les 2 ans, on est obligé de dire c'est une œuvre testament, parce qu'au cas où on l'enterre après, on est obligé de... Mais finalement, on retient aussi ça, parce que malheureusement, c'est comme ça que... Enfin, pour moi, c'est malheureusement comme ça que je fonctionne. Mais tu as raison, c'est pas vrai littéralement. Et il y a beaucoup de beauté dans ce film. Il y a quelque chose de très fort. Et même si effectivement tu as dit il y a des errements, je trouve que parfois ça flotte un peu. Il y a quelques métaphores visuelles qui sont franchement pas bien, sont juste pas bien.
Il y a quelques transitions qui sont un peu lourdes.
Il y a un passage dans un miroir qui est vraiment juste pas bien, c'est pas une bonne idée. Il y a Peter Capaldi qui est censé jouer un type qui vient de Kent et qui est pas foutu de cacher son accent écossais.
Ils sont meilleurs
comme ils sont hyper beaux gosses. Hein,
ouais, ouais,
d'ailleurs,
ouais,
ça fait un peu trop défilé de beaux gosses, mais c'est vrai qu'ils sont tous.
Ils sont
magnifiques, ouais, très très
voilà. Faut pas. Bon, et tu le dis, le rapport au corps, il y a un magnifique monologue à la fin sur le rapport au corps d'un des amants de Sassoon, que je retiens son nom. Je pense que c'est un peu long aussi, je suis d'accord. Moi c'est pas forcément le deuxième tiers mon problème, la fin met un peu de temps à arriver, il y a un moment où il finit par tourner un peu en rond, il y a quelques scènes qui sont plus inégales, même si le rapport à son fils est assez beau, mais oui, c'est plutôt un bon moment, et franchement pour un dernier film il y a pire.
Et puis il y a le travail sur le son aussi que je trouve qui reflète vachement la violence pour le coup, et c'est super intéressant entre la musique, les effets un peu de surprise qui rompent le rythme avec
des thèmes.
Mais moi je trouve qu'en fait le film est assez égal, enfin t'as dit que le film était inégal, je trouve que le film est assez inégal et s'harmonise bien, notamment par la mise en scène des dialogues surtout, parce que je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui unifie beaucoup ce film, c'est les dialogues et c'est les inserts de poèmes et les inserts de ce qu'il écrit dans ses carnets. Et en cela c'est un film qui est profondément littéraire et qui est très beau non seulement à voir mais aussi à entendre, et je sais pas si c'est si inégal que ça. Par contre je trouve qu'il y a des choses qui manquent peut-être un peu, notamment dans la relation avec la mère. Enfin, on comprend qu'elle est très importante pour lui, il y a pas de scène avec la mère, enfin elle est vivante, il va la voir, d'accord. C'est tout, elle est très importante, mais
elle
pourquoi
critique un petit copain à un moment,
oui, juste il y a une phrase d'elle, ok, bon, donc ça je pense que ça manquait un peu. Et aussi On parle des acteurs, on parle de l'acteur de Hunger Games machin. Moi je trouve que Jack Lowden n'est pas si charismatique que ça non plus pour être vraiment de tous les plans pendant 2h17. Enfin, je l'aime beaucoup.
C'est très vrai.
Mon amour pour les téléfilms BBC me fait adorer Jack Lowden par ailleurs dans des rôles peut-être un peu seconds. Mais ici, je trouve que vraiment pour occuper le film de la seconde du début à la seconde de la fin, peut-être qu'il manque un peu quelque chose. Il manque un peu de profondeur.
Ah, je sais pas.
Mais après, je trouve qu'il joue bien. En fait, le jeu. Je trouve que le jeu compense le manque de charisme.
Moi, j'aimais bien. Au-delà du jeu, j'aimais bien justement le fait qu'il soit tout à fait insignifiant, ce mec, en fait. Et c'est pas contre Jack Lennon, mais je trouve qu'il est tout petit, en fait. Il apparaît dans les scènes comme ce. De tous les mecs, c'est à peu près le moins beau.
Oui, c'est vrai que c'est pour ça, je pense qu'il a été choisi aussi, que les autres ont été choisis comme étant très beaux, parce que c'est le moins beau, machin. Mais du coup,
il est très talentueux, il est juste là, un peu écorché, il fait tout en deuxième temps. Et je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce type qui a toujours été deuxième à tout et qui sera deuxième toute sa vie, quoi. Et quand on arrive à la fin de sa vie, effectivement,
bah d'ailleurs,
c'est ça
qu'on
s'acquifait.
Il le dit à son fils, ouais.
Ça fait partie des choses qui m'émeuvent un peu, mais je suis assez d'accord que c'est pas, on n'est pas très accroché, sa performance ne tient pas dans le fauteuil, quoi.
Du coup, on vous conseille, je pense.
Ouais.
Non, Paul conseille pas.
C'est assez mou quand même. Oui, c'est bien.
Surtout qu'il passe pas dans beaucoup de salles, donc si vous avez
l'occasion
de voir.
Il est très mal distribué. Ouais.
Ok, du coup, on a bien aimé, mais on le conseille mollement. Je pense qu'on peut passer à la salle des profs.
Et donc, dans la salle des profs, on suit Carla, une professeure de mathématiques et de sport. Et dans son collège, en fait, il y a une série de vols qui a lieu. Et donc, elle va enquêter sur ces vols. L'administration suspecte les élèves. Puis elle va suspecter petit à petit le personnel également. Donc voilà, c'est on dirait pas avec le résumé, mais c'est un film assez sous tension. Et je sais pas qui veut commencer à en parler. Et ben, vas-y, Nora, je t'en prie.
J'ai trouvé que c'était un film assez étonnant parce que il a un format 4 tiers qu'on remarque dès le début, donc un carré, et puis un grain assez particulier. Et c'est un film en fait qui est vraiment sous tension pendant tout le film. En fait, ça devient un thriller et on n'a pas l'habitude de ça. Enfin, j'ai vu lors des bandes annonces qui passaient avant le film qu'il y avait pas mal de films en ce moment sur les profs, donc avec Louise Bourgoin, avec François Civil, etc., qui vont sortir.
Le truc où François Civil se fait accuser de...
Non, c'est pas de vague. Et il y a aussi Bis Repetita.
Oui, mais avec François Civil, c'est pas Bis Repetita. Bis Repetita,
oui,
c'est avec
Louise
Bourgoin. Pas de vague.
Et il y a eu Un métier difficile il y a quelques temps, et ce film, même si j'ai pas vu les films qui vont sortir, a l'air de quand même de se démarquer du film de du film de prof habituel, parce qu'il est beaucoup plus déjà auteur, je pense, et sous tension. Ça fait vraiment un thriller un peu à la Hitchcock. On sait jamais en fait qui a volé pendant tout le truc, on reste dans l'incertitude, et pourtant on voit cette prof se débattre contre tout ça, donc j'ai bien aimé ce film. Il nous emmène dans un endroit auquel on s'attend pas, et il a été sélectionné pour les Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, contrairement à Dodin Bouffant. Voilà. Je sais pas si c'est un argument, mais
moi j'ai pas du tout aimé ce film. J'ai trouvé que c'était un matériau qui était laid, qui ressemblait à globalement un livre d'allemand filmé caméra à l'épaule, et que c'était vraiment
T'as fait allemand ou pas, parce que ça ne ressemble pas à un livre d'allemand. Non.
S'il vous plaît.
Les adolescents. Ouais, non. Les adolescents ne ressemblent pas aux adolescents des livres d'allemand.
Ok. Bah écoutez, moi j'ai trouvé ça déjà très laid, et j'ai trouvé que injecté à cette matière, il y avait de la musique musique suspense entre petites étoiles pour mettre du suspense et de la tension. Il y avait, pour injecter un propos politique, des enfants de 10 ans qui littéralement parlaient comme le New York Times. Enfin, c'était, il y a notamment un moment où ils font le journal du lycée et ils parlent comme s'ils avaient inventé la politique et
Après, en vrai, si je peux me permettre, le journal, du coup, j'imagine, ça prend place dans le collège allemand. Et le collège allemand, c'est collège et lycée. Non, mais du coup, il y a des gens qui sont en terminale.
Moi, j'ai trouvé que c'était absolument pas crédible.
Moi, ils sont très intelligents, tu vois. Donc,
non, mais du coup, ça fait plus sens que... Non, mais enfin, je comprends, je me suis dit ça, mais en même temps, du coup, si tu...
Déjà, ça, je trouve ça absolument pas clair, ce qui est pour moi un problème scénaristique par ailleurs.
Ou une lacune culturelle, je ne sais pas.
En tout cas, j'ai trouvé que c'était un film qui a thèse, un film qui avait une thèse certes intéressante, qui est d'ailleurs un peu la même que dans Anatomie d'une chute, hein, à savoir qu'est-ce que la vérité, en fait l'accusation est toujours politique, etc. J'adore, c'est super, mais là c'est plaqué sur des enfants qui ont 8 ou 17 ans, honnêtement je m'en fous, mais quand ils sortent leurs grandes phrases de manière très posée devant leur professeur dans des scènes en jeu contre champ, on se fait chier comme la mort, et je me suis d'ailleurs... je voulais dire que je m'étais endormie, mais c'est not allowed.
Je témoigne.
Franchement, j'ai 8 ou 17 ans, je m'en fous.
Après avoir vu La vie de ma mère...
Alors, on est sur la salle des profs, là, non, s'il te plaît, restons concentrés. En tout cas, non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un mauvais film, et j'ai trouvé qu'il y avait même plusieurs scènes où c'était assez gênant. Je pense notamment à la scène du Rubik's Cube, je pense à une scène d'ouverture où elle fait ses petits jeux enfantins avec les mains. Je sais pas trop ce qu'on veut nous montrer, que les enfants sont innocents et qu'ils vont être corrompus par la suite, ou alors que les enfants sont complètement cons et qu'ils vont par la suite apprendre à parler comme un article du Grand Continent. Enfin, je trouve ça assez peu crédible du début à la fin, et on a vraiment le sentiment qu'on partait avec une ambition esthétique, c'est-à-dire un film caméra à l'épaule, pseudo sous tension, pseudo thriller dans un collège, et d'autre part l'envie d'un propos philosophique, politique, tout ce que vous voulez, intéressant, qui au final ne s'emboîte pas les uns avec les autres, et donne un film où je me suis profondément fait chier. Tout ça doublé d'une performance d'acteur qui laisse plus qu'à désirer, mais en même temps normal, parce que c'est des enfants, et les enfants dans les films, on sait ce qu'on en pense, à part Justine. Donc voilà, je vous laisse enchaîner.
Moi, je vais enchaîner très rapidement, parce que globalement, je te rejoins, Valentine. Valentine, qui, je précise, que j'ai dû réveiller à 6 reprises pendant ce film. Voilà, j'avais très envie de partir et je voulais qu'elle souffre avec moi du début à la fin. Ouais, je pense que je te rejoins sur à peu près tous les points, sauf que la thèse, comme tu l'as dit, est très mal exploitée. Les enfants qui te parlent de l'état de droit, tu l'as déjà dit, mais enfin, ils parlent quand même d'état de droit. Je pense que même en terminale, il y en a pas mal qui savent même pas de quoi on parle. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça assez ridicule. Le suspense est joué, en fait, avec des instruments, clairement. La construction narrative ne l'amène pas du tout. Et puis, tout est très prévisible. Et un truc qui m'a surtout dérangée, c'est qu'il y a une sorte d'antipathie contagieuse, c'est-à-dire qu'aucun personnage n'est attachant, et du coup il y a un espèce de truc pour le coup angoissant, et là ça fonctionne, ouais, un truc très antipathique à tous les niveaux et qui fait que j'ai trouvé ça très, très pénible, mais je pense pour les mauvaises raisons.
Mais c'est intéressant justement que la personnage principale soit pas forcément attachante, je trouve.
Oui, mais je trouve que c'est il y a aucun personnage qui est. Non. Mais c'est pas forcément attachant, c'est vraiment en fait ils sont antipathiques. Donc ouais, à partir d'un moment, enfin tu vois, ça commence à me crisper un peu.
C'est pas attachant dans le sens où t'adhères à son éthique ou à sa morale, mais c'est attachant dans le sens où t'as envie de t'attacher à son destin et d'en savoir plus, quoi.
Ouais. Et puis effectivement, il y a des scènes. Alors le moment de grâce avec le Rubik's Cube, oh, s'il vous plaît, quoi. Déjà c'est ultra prévisible et puis c'est atroce. Visuellement, je tiens à préciser que c'est bien le 4 tiers, mais ça n'en fait pas un beau film. Voilà. L'image, il n'y a rien dessus. Je vois ce dont tu parles, Valentine, avec cette espèce de lumière qui peut faire penser à certaines images des livres d'allemand. Mais
voilà,
non,
et Thaïs, elle a fait beaucoup d'allemand, donc elle sait.
Voilà, pas. Exactement. Non, mais c'est tout. Enfin, franchement, je vais arrêter là parce que.
Moi, je vous trouve un peu dur quand même, hein, franchement. Enfin, je peux pas dire que je sois sortie du film en étant extrêmement enthousiaste, mais de là à dire que c'est vraiment nul, je dirais pas que c'est nul. En fait, moi, je pense que mon problème avec ce film, c'est. Je trouve que c'est vraiment la définition du film hyper mineur. Enfin, c'est vraiment mineur. Genre, c'est pas foncièrement mauvais, mais.
C'est un film allemand.
Tu l'oublies, mais tu l'oublies de manière instantanée. Enfin, c'est assez dingue à quel point je l'ai vu mardi soir et j'en ai extrêmement peu de souvenirs, à part le fait que je me suis dit, comme Thaïs, que c'était vraiment un film allemand. Enfin, c'est-à-dire que c'est hyper allemand comme film.
Je me désolidarise.
Non, mais notamment parce qu'il y a des enjeux scénaristiques, je pense, qui sont. Enfin, difficilement compréhensible du reste du monde, notamment il y a tout un moment du film où ils sont tous en mode oh my god, vous n'avez pas respecté le droit à l'image. et en fait, d'un point de vue français, t'es en mode ah, mais c'est vraiment nul, enfin, pourquoi ils se prennent la tête autour de ça. Bon, c'est parce qu'il faut savoir que les Allemands ont vraiment une obsession avec le droit à l'image, voilà, ils détestent être mis en photo, blablabla. Mais donc, ça fait que c'est hyper plat. Et puis en fait, moi je pense qu'il y a un gros problème avec le personnage de la prof qui est genre chiant à mourir. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est droite dans ses bottes du début à la fin, elle a aucune aspérité. C'est juste genre la prof sympa qui te fait des petits jeux de clap-clap, guten tag, je sais pas quoi. Genre. Enfin, elle est extrêmement plate.
En fait, elle incarne
plate.
La morale, elle incarne une forme de morale et
ouais,
c'est super
c'est
chiant.
Mal foutu, enfin, ouais. Quoi.
Oui, oui.
Puis parce qu'elle faiblit un peu de temps à autre, tu vois. Mais au final,
enfin,
elle faiblit de droite et
oui,
c'est
voilà.
Insupportable, quoi. C'est...
Après, il y a quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont un peu intéressantes. Je dis pas qu'elles sont extrêmement originales, mais bon, ça change quand même un peu de ce qu'on peut voir dans des films de profs où, en fait, la question de la culpabilité, elle est assez vite évacuée. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on peut rentrer dans une spirale de défiance et de méfiance à partir d'une situation qui peut sembler extrêmement banale. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Relativement bien traité. Après, je suis d'accord qu'il y a des énormes faiblesses et je me suis aussi fait la réflexion que ces élèves étaient quand même extrêmement déjà insolents. Vraiment, c'est-à-dire que.
Mais c'est ça,
ils
tu
sont
dis...
hyper insolents. Enfin...
Tu dis que c'est intéressant cette spirale, mais en réalité, ça.
Oui. Non, mais oui, mais je dis.
Elle
mais
tombe,
ça, c'est pas nul.
Elle s'arrête après 15 minutes. Enfin, les enfants qui se liguent contre leur professeur. Enfin, s'il vous plaît.
Moi, je trouve ça hyper intéressant cette histoire de méfiance, de spirale, etc. Mais du coup, faites pas un film comme ça, quoi, à partir de sujets intéressants. Puis il y a plein d'autres sujets intéressants dans le film. Il y a des trucs de phénomènes de groupe, de mensonges, de rumeurs qui se propagent dans ce milieu fermé et passionnant qu'est une école, primaire, collège, on s'en fout, mais enfin, en tout cas une école. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des trucs plus qu'intéressants. Passionnant à traiter et c'est vraiment pas fait, quoi. Enfin, c'est vraiment.
Moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous. Je pense que c'est un film qui est pour le coup très intelligent et très intéressant parce que il va pas faire comme on avait pu l'avoir avec Un métier sérieux, Thomas Hilty, où on va faire attends, je vais égrener vraiment les problématiques réalistes de tous les professeurs machin. Non, en fait, c'est presque. Le film, son intérêt principal, c'est presque même pas l'école en tant que telle, c'est l'autorité. Et c'est tout le film est basé autour du concept d'autorité et de la défiance qu'on peut avoir à l'autorité, comment on construit l'autorité. Et un peu à la manière où, peut-être un truc allemand qu'ils aiment bien, c'est de prendre une salle de classe et d'en faire une généralité à toute la société entière. Il avait déjà fait ça pour Die Welle. Et il le refait encore là.
La vague pour les
non-germanophones. Mais et c'est là où j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que Di Velo du coup reprenait le principe de comment on construit une société fasciste. Ici, c'est comment on reconstruit une société capitaliste avec un antagonisme de classe sociale cette fois-ci, en montrant le professeur et l'école comme la bourgeoisie, l'État capitaliste, et la classe comme un prolétariat. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on voit au sein même des dynamiques de la classe, une fois que finalement on comprend que l'autorité du professeur, elle tient sur rien, elle tient juste sur le rapport tacite qu'on a à respecter le professeur, bah qu'on peut foutre un peu le bordel et faire ce qu'on veut, et de toute façon le professeur, in fine, il a pas vraiment de moyen de nous punir, bah ça rentrait un truc hyper intéressant, c'est la lutte, c'est comment on organise une lutte. Et vous me dites, alors je suis d'accord que les enfants ils peuvent paraître quand même d'avoir parfois un bac plus 5 en sciences politiques, mais au bout d'un moment, enfin, vous aviez dans vos classes, je suis sûr et certain, des leaders, même des gens au lycée.
Bah moi c'était moi perso.
Valentine, bah voilà. Non mais moi j'en avais au lycée, même ça peut paraître bizarre, mais qui oui avait des petites connaissances quand même en politique, et était quand même capable de citer deux trois penseurs et tout ça. Il y avait le Trotsky du lycée, enfin ça existait, tu vois. Ou non mais je veux dire, il y a de toute façon toujours des têtes de gondole dans des classes, dans des groupes d'élèves, des groupes d'enfants, des groupes de collégiens, lycéens qui savent mener des groupes. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'au sein du rapport même de la classe, il y a tout plein de tensions et de rapports de domination qu'il y a, qu'on peut retrouver au souci dans des luttes prolétariennes. Je pense notamment par exemple, à un moment il y a un élève qui casse une grève et cet élève se fait traiter alors qu'en fait c'est l'élève le plus dominé, qui est dominé à la fois par la prof et en même temps par le reste de sa classe, et quand la classe va dire « Ah mais tu nous trahis », tout ça, il se fait défoncer. Ça c'est une violence qui est hyper intéressante et qui en plus qui est prise dans la classe, parce que la classe c'est quelque chose qu'on peut facilement, rapidement définir, mais qu'on peut élargir à plus loin dans la société, et même la figure du prof, alors vous dites « elle évolue pas », mais je trouve ça hyper intéressant qu'elle puisse pas évoluer. Elle voit son autorité qui est sapée, elle n'a plus aucune légitimité vis-à-vis de sa classe, et la seule solution qu'on va tout le temps lui proposer, c'est le recours à la force. Et c'est ça qui est hyper brillant, je trouve, dans ce film-là, et qui donne un propos politique très intéressant, c'est qu'on a une structure d'autorité qui est ici l'école, mais qu'on peut élargir à une société de marché, où en fait le seul rapport de domination, le seul moyen de reconstruire une autorité, c'est pas de redonner la confiance, c'est pas de faire justice, parce qu'au final le vol, toute l'intrigue autour du vol, en 15 minutes elle est rushée, on s'en fiche très très vite en fait de qui c'est qui aurait volé quoi. Le plus intéressant, c'est comment on reconstruit une autorité derrière. Ben, le seul moyen de reconstruire cette autorité-là, c'est l'autorité. Ce qui est intéressant, c'est que la prof, bah, elle est isolée parce qu'elle veut parcourir à cette autorité-là. Elle se désolidarise de ses collègues qui veulent intenter une action en justice. Elle se désolidarise de ses collègues de la principale qui veulent virer un élève. Elle se désolidarise de tous ces gens-là qui veulent rentrer en conflit avec la classe. Et au final, le seul moyen, je ne dévoilerai pas la fin, mais le seul moyen, c'est d'agir par la force. Et ça veut dire quelque chose, c'est une crise en fait, de l'autorité, où en fait, on essaie de construire une autorité factice avec un rapport qui est factice, qui est censé reposer sur une confiance qui n'existe pas. Et à la fin, le seul moyen qu'on a pour reconstruire cette autorité, c'est de taper et de montrer qui c'est qui est au-dessus. Et c'était hyper malin, je trouve, d'avoir décidé, on aurait pu faire ça dans des manifestations, dans une usine et tout ça, d'avoir pensé à prendre une classe pour illustrer ce rapport-là de domination. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est très très bien montré. Et je trouve que, en plus, d'un point de vue formel, le film est très bon, arrive à montrer cette classe, non pas comme une somme d'individualités, mais comme un tout organisé, conscient de lui-même, alors parfois avec des contradictions en son sein, mais un tout organisé, ça c'est hyper brillant. Et de voir toujours cette prof seule, isolée, qui essaye de casser toutes les autorités qui sont autour d'elle, qui essaye de casser tous ces corps construits autour d'elle, c'était hyper brillamment montré, je trouve, par la réalisation, qui est hyper sobre. Enfin, c'est pas un immense film, c'est pas un grand film, mais je trouve que c'est un film qui a un propos très intéressant, dont vraiment on pourrait parler longuement, et que je trouve est très très bien représenté.
Moi je trouve que je la trouve passionnante, ta grille de lecture marxiste, mais moi je trouve que le film ne m'a pas du tout donné ça, et notamment dans la manière dont c'est filmé spatialement, la manière dont l'école est filmée, et la manière dont les plans dans la classe, dont elle se pose sa caméra sur chacun des élèves, etc. Moi j'ai pas du tout vu ce groupe, cet ensemble. Par ailleurs, quand tu dis que la classe est prolétarisée par rapport à la prof et tout, moi je trouve que c'est vraiment construire une grille de lecture qui effectivement marche pas mal sur ce film, donc c'est hyper intéressant, mais moi je trouve pas que le film construit ça, et je trouve que
si, en termes de classe sociale, l'analyse elle tient. On voit très bien dans le groupe des élèves ceux qui sont dominés et ceux qui sont dominants, et ceux qui ont un cadre culturel favorable et ceux qui l'ont pas. C'est très clairement dit, c'est montré. À un moment, il y a les parents qui viennent. Si, parce que tu vois tout le temps les parents. Ensuite, tu vois, t'as des différences de niveau de classe. Qu'il y a celui qui est hyper fort, sa maman, c'est pas nécessairement la plus riche, mais c'est celle qui travaille dans le collège. Il y a celui qui est pas très bon, qui a des parents qui entre eux ne parlent même pas français des fois. En fait, enfin, moi je trouve que justement ça socialement c'est montré, c'est dit. français. Oui, super, merci Juliette. Oui, allemand, évidemment. Mais justement, moi, je trouve que ça s'est montré que ces divisions sociales-là, même à l'intérieur des profs, parce qu'il y a, du coup, cette prof-là, elle vit en Allemagne, mais elle est d'origine polonaise. Elle dit à un moment à un collègue, ah, on ne se parle pas en polonais. Je pense que le film a des problèmes, mais par contre, sur le fait de montrer les classes sociales à l'intérieur même du groupe des élèves et à l'intérieur même du groupe des profs, non, je trouve qu'il est pertinent et qu'il le fait.
Oui, mais justement, il nous le fait sous forme d'une mosaïque et d'un espèce de panel, de palette, sans du tout nous désigner ce groupe comme quelque chose de... Moi, j'ai trouvé que ça faisait... Voilà, effectivement, notamment dans la réunion parents-prof, on voit toute une palette de gens, mais du coup, qui contribuent à nous désigner ce groupe comme un échantillon, exactement sur le modèle de la vague, où on prend la société, on la réduit à un microcosme avec un peu tout le monde, et puis voilà, et c'est ça.
Mais c'est ça qu'est l'école, enfin, pardon.
Oui, c'est ça que c'est pas du tout. Bah non, parce que du coup, c'est quelle école
ça... Bah ça c'est une école, enfin c'est un collège dans une espèce de petite ville d'Allemagne.
Oui, mais du coup quand tu vas avoir un propos politique sur le truc, je trouve ça pas du tout une bonne idée de donner comme ça un échantillon sur lequel on peut rien dire.
Bah bien sûr que si, on peut dire quelque chose. Enfin je comprends pas ton propos.
Bah moi j'ai pas compris en voyant cette classe que c'était...
Il aurait fallu prendre une classe juste d'un certain milieu social.
Non, genre... bah, sans caricaturer jusque là.
Du coup tu fais comment ?
Même tu vois, tu prends une classe qui serait d'un seul milieu social, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils construisent les rapports de domination avec juste les notes des élèves. On pourrait tous avoir des élèves qui sont tous quasiment identiques avec juste des notes différentes. À un moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grève, les élèves ne veulent pas faire leurs exercices, et la prof leur menace de leur mettre un zéro. Et l'élève qui craque en premier, c'est l'élève qui a une moyenne de merde, qui sait que s'il a ce zéro là, il est obligé de redoubler, et tous les élèves qui vont lui dire mais t'es un connard d'avoir trahi la grève et tout ça, en fait c'est celle qui va leader le mouvement et qui va dire mais t'es un connard de nous avoir trahi, c'est la fille qui a 16 de moyenne, qui sait que si elle se tape un zéro, c'est pas grave. Ça c'est hyper intéressant, tu vois, dans les rapports de lutte, notamment tu sais, des ceux qui font une grève, qui s'ils loupent un jour de travail, bah pour eux c'est vraiment compliqué, et ils se font engueuler par des gens que s'ils loupent un jour de travail, bah eux c'est pas un souci parce qu'ils ont de la thune derrière. Et toi, représenter ce rapport de domination là à travers quelque chose de très abstrait qui est la note à un cours, moi je trouve ça hyper brillant pour le coup, tu vois. Et c'est un moyen de décrocher ça de statuts sociaux qu'on a l'habitude de voir pour le rendre plus universel en fait.
Mais moi je trouve ça vraiment passionnant ce que tu dis sur les rapports, mais ça présuppose d'interpréter le refus de faire un devoir comme une grève, etc. Tu vois, donc d'avoir déjà une grille de lecture que moi, en tout cas qui m'a pas été évoquée, que la perche m'a pas été tendue. Peut-être que j'aurais dû l'apprendre moi-même, peut-être que j'aurais dû arriver devant ce film avec cette grille de lecture, et effectivement ça me paraît beaucoup plus intéressant avec ce regard maintenant que tu le dis. Cela dit, moi voilà, je regarde un film, je prends ce qu'il me donne aussi, mais j'ai trouvé qu'il m'avait pas donné du tout.
Non, puis surtout, je trouve que son analyse, Arthur, elle est très intéressante, mais elle marche pas du côté de la prof, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même le personnage principal du film, et justement, elle incarne pas cette autorité qui serait uniquement basée sur l'autorité, parce qu'en fait, c'est débile ce que je viens de dire, mais... Oui, mais elle a une position qui est quand même vraiment hyper basée sur la bienveillance, et le film insiste énormément sur ça, notamment avec la scène d'ouverture, sur le fait que c'est une prof qui est là pour accompagner ses élèves. Elle défend cet élève d'origine, turque, qui est accusé à tort. Enfin, justement, je trouve qu'il y aurait pu avoir une grille de lecture assez binaire sur domination opprimée versus oppresseur, mais là, il n'y a pas du tout ça, parce que... Elle, en fait, c'est juste la figure même de la justice, quoi, et c'est ça qui est hyper chiant.
Bah, après, je laisserai la parole parce que j'ai vraiment monopolisé le truc, mais juste sur ça, en fait, elle a une figure en effet particulière, puisqu'elle, en fait, elle est une parvenue dans cette classe sociale des profs qui devient dominante. C'est une fille d'immigrée, tu vois.
Oui, mais ça, on nous le dit pas, enfin, ça se trouve, elle vient de la bourgeoisie polonaise. À un moment, faut pas inventer des backgrounds des gens alors qu'elle
a un côté où, en effet, elle veut être du côté, mais c'est ça aussi qui est une tragédie pour elle. Elle veut être du côté des élèves, et on la force constamment à être du côté des professeurs. À être de l'autre côté de la barrière, à être contre eux, avoir une position d'autorité face à eux, alors que c'est visiblement ce qu'elle veut pas, tu vois. Et ça, c'est des choses qui peuvent aussi exister dans la société, des gens qui doivent se retrouver à défendre l'ordre, alors qu'eux-mêmes aimeraient bien être de l'autre côté de la barricade, tu vois, et qu'ils peuvent pas le franchir.
Aime bien l'ordre, parce qu'elle tient la justice pour elle, l'ordre, c'est une forme de justice.
Ce qu'on montre,
elle veut
c'est
pas
que
être de
l'autre
côté.
Il est décollé de justice, alors qu'elle, elle veut mettre une justice, et que de par cette justice, doit découler un ordre, tu vois.
Ouais, enfin, ok.
Ça ferait la parole. Je me
Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup interprété le film, parce que je trouve que le film, en réalité, nous donne pas beaucoup. Enfin, hein, après, je sais pas, peut-être que je suis totalement débile et que j'ai rien vu dans le film, mais je trouve que l'accent est quand même beaucoup mis sur cette spirale qui devient hors de contrôle, cette situation, machin, qui devient totalement où elle devient vraiment seule contre tout, c'est effectivement totalement dépassée par les événements. Et il y a quelque chose qui, enfin, il y a un parti pris formel qui prend toute la place. Et qui est pas inintéressant. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'instant où effectivement c'est angoissant et tu te dis ah super, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer, ok, enfin d'accord. Mais ça, enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de propos très clairs dans ce film et qu'on passe un peu de thème en thème entre les scènes. Enfin, oui, effectivement, au début, on nous parle un peu du racisme des institutions face à certains élèves ou de certains profs ou directeurs face à un élève. Ok, puis ensuite on passe à des questions de morale, de justice. Ah, elle filme quelque chose qu'elle ne devrait pas filmer. Est-ce qu'il y a délation? Est-ce que c'est moralement juste? D'accord. Puis on n'en parle plus. Puis, enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a rien qui tient vraiment longtemps dans ce film, qui traverse le film de part en part. Il n'y a pas de propos vraiment qui s'impose. Et je pense que ça passe aussi par le fait qu'il n'y a pas de personnage dans le film. Genre, les élèves, ils ne sont pas du tout individualisés, je trouve. Enfin, ils ont très peu de scènes. Ils ont assez peu de personnalité, au final je trouve qu'ils sont un peu caricaturaux. La prof principale, elle a aucune zone d'ombre, elle est pas du tout, enfin on la développe pas du tout, je trouve. Et du coup elle devient assez inintéressante au final parce qu'elle est juste cantonnée à ce rôle un peu de prof un peu innocente qui arrive toute naïve dans son nouveau collège et qui veut être bienveillante mais qui arrive pas trop, enfin du coup c'est assez limite, je trouve. Et il n'y a pas vraiment de personnage non plus du côté des parents d'élèves ni du côté des professeurs, enfin en fait il n'y a pas de personnage qui vraiment nous fasse comprendre quelque chose dans ce film, quoi.
Mais je pense que c'est parce que c'est un film qui est construit aussi sur un mode de parabole. Donc en fait, c'est pas forcément intéressant d'aller chercher, en tout cas, enfin, la posture du réalisateur. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'était pas forcément intéressant d'aller chercher dans les intériorités des uns et des autres. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, du coup, on a une parabole qui forme un tout, mais en fait, à l'intérieur de celle-ci, on a une espèce de patchwork de thèmes éthiques / moraux qui n'ont pas forcément de... Enfin, qui ont du lien entre eux, mais qui parviennent pas à nous faire tenir. Et tu dis que... Et donc, en ce sein, tout est éclaté, sauf une chose, c'est la droiture morale de cette professeure qui, on l'a déjà dit, mais que j'ai trouvé assez pénible. Et je trouve, Arthur, ton analyse extrêmement intéressante, mais je trouve que tu donnes beaucoup... Tu accordes beaucoup de trop de crédit à ce film. Enfin, j'ai envie de te demander
de réécrire le film.
De faire le film. Ouais, mais en même temps, non, parce que du coup, avec ta grille de lecture, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que c'est. Ouais, c'est lui accorder beaucoup trop de choses. Moi, c'est un film qui m'a vraiment rien donné. Alors, peut-être que c'est une question de niveau intellectuel ou de moment dans lequel. Enfin, auquel tu prends le film. Mais. Je trouve que ça rendait pas du tout ça, quoi.
En fait, il faut regarder le film avec Marx ouvert sur les genoux.
Bah, c'est ça, en fait.
Et là, c'est super.
Je pense que c'est une belle preuve que je suis beaucoup trop à droite pour comprendre et aimer ce film.
Si je peux rajouter un dernier, parce que du coup, enfin, mon avis en fait, moi je trouve qu'on a été vraiment super méchants sur ce film. Enfin, pardon, mais mais les gros rageux, t'as fait que le critiquer. Il y a encore Arthur qui l'a défendu.
Mais Arthur, il m'a.
Moi j'ai été méchant.
Nora, mais oui, bien sûr, en termes de temps de parole, pardon, excusez-moi, mais il y a 75% du temps où vous le critiquez.
Oui, mais en termes de puissance d'intervention.
Non, c'est bon, je suis la dernière. Je crois, il me semble, hein, c'est ça. Mais, non, mais et Nora, elle a bien aimé, mais elle a parlé 2 minutes. Et ensuite, vous faites un débat sur à quel point c'est nul. Enfin, pardon.
Droit de réponse là.
Voilà. Non, je trouve pas que le film est médiocre. Je trouve pas que c'est le film de l'année. Je trouve que l'analyse d'Arthur est pertinente, que je l'avais pas vu non plus, et que je trouve que.
Mais elle est brillante.
Forcément, parce que.
Il est trop fort.
Non, mais forcément, vous avez tout dit. Et moi, je l'ai pas vu non plus, mais je trouve que ça soulève des questions intéressantes. Je pense que sur le propos, je suis quand même un peu d'accord aussi avec Costal. J'arrive pas bien à distinguer en fait quel est le propos général du film, même si moi, je pense que il y a un gros travail sur le statut de la preuve. Qu'est-ce qui fait preuve? Elle en parle en cours. C'est pas forcément dit de manière très subtile, mais ça se retrouve tout au long du film. Et je pense que c'est vraiment ça le thème central. Mais en fait, je pense qu'il y a un thème dont on n'a pas, enfin, un aspect du film dont on n'a pas parlé. C'est le rythme. Moi, je trouve que pourquoi le film est tiens, c'est
les mathématiques.
Les mathématiques, exactement. Non, par contre,
vraiment, voilà, ils m'ont perdu à la deuxième scène.
À un moment, il y a compris. La question bonus, j'ai rien compris. Je savais pas répondre. Genre, ils ont dit l'explication. J'étais là, mais je suis absolument nulle. Ah, on est d'accord qu'on savait pas y répondre à la question bonus, genre. Au-delà de ça, moi, je trouve que l'aspect intéressant, l'aspect qui m'a fait tenir dans ce film, c'est le rythme. En fait, je trouve que le film est super tendu, que tu tiens, que et le parti pris est intéressant. Effectivement, tu vois pas la vie des gens en dehors, mais parce que le but, c'est de rester dans l'école. Et je pense que ça, je souscris vachement à ce que Arthur a dit. C'est pas un film sur l'école, c'est pas un film sur les profs en soi, parce que sinon, c'est vrai que ça fait des trucs qui sont parfois pas géniaux, typiquement un métier sérieux. Mais là, je trouve que ce qui est bien dans ce film, c'est que, enfin, moi, je me suis pas fait chier une seule minute. Je me suis pas ennuyée. J'étais, alors que pourtant, on nous parle de vol dans une école, une enquête, ça c'est pas très tendu. Et pourtant, je trouve que par la mise en scène, ça tient. Et je vous vois dire non, mais moi, enfin, moi, je suis malade. J'avais juste une seule envie, c'est de dormir. Le film m'a tenu pendant 1h38. En plus, c'est pas très long. Je trouve que, enfin, la tension se développe vachement. Et oui, le propos est un peu confus, mais le fait que tu passes à ça, et que tu restes dans cette espèce, du coup, huis clos, en fait, dans le collège, parce que t'en sors quasiment pas, enfin, voire pas du tout.
Non, t'en sors pas.
Et ben, justement, moi, je trouve que c'est ça qui marche et qui fait que le film est réussi pour moi. Enfin, et on peut pas dire que c'est une absolue merde. Enfin, je suis désolée, mais je suis un peu énervée, mais c'est pas le film de l'année. Mais on peut pas dire que c'est mauvais. Enfin, il y a des choses en termes de réalisation, d'écriture, de rythme qui sont bien faites et qui te font tenir. Enfin,
Non, mais moi, je m'inscris en faux parce que je trouve que justement le rythme dont tu parles, et je pense voir de quel procédé tu parles, notamment la musique, le montage, la caméra à l'épaule, etc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas bon, en fait. Et ça m'a, tu vois, la tension. Enfin, je suis désolée de dresser ce parallèle avec Anatomie d'une chute, mais je pense vraiment qu'il y a des points communs dans l'intention, en tout cas, notamment dans ce que tu disais, et je suis complètement d'accord sur le statut de la preuve, sur le statut politique de la preuve, etc. Et ben voilà, comment faire un excellent film et comment faire un film très mauvais en le décalant en plus de l'autre côté de la frontière allemande sans Sandra Hüller, quoi.
Non, mais évidemment que c'est moins bien qu'Anatomie d'une chute. Enfin,
c'est pas pour dire que c'est moins bien, parce que ça, on s'en fout, effectivement. Mais je veux dire, dans l'intention, effectivement, de nous créer de la tension, de pas nous ennuyer sur un film qui, quand même, se passe un peu à huis clos, sur une histoire qui est pas très intéressante à la base, etc. Dans l'intention qui est un peu la même, dans les très grandes lignes, moi je trouve ça pas bon du tout, mais du coup c'est intéressant de voir qu'on a tous des sensibilités différentes.
Encore une fois, enfin, moi je trouve que juste en fait ça marche. Genre juste, je trouve pas que c'est très subtil, mais juste ça marche, voilà.
Ouais. Ok, je vous propose qu'on passe au dernier film qui.
Non ça ne marche pas. J'ai détesté.
J'ai pas dit que c'était génial.
Sur ce, on passe donc à un film vraiment mauvais qui est La vie de ma mère que Valentine nous présente.
Ah oui, c'est vrai ça. Alors, La vie de ma mère qui est donc un film de Julien Carpentier, réalisé par Julien Carpentier, qui est la version française de John Carpenter. et qui réalise donc ce film...
C'était par ailleurs une excellente blague, Valentine. Et voilà.
C'est tout. Excusez-moi en dessous de ma gueule là, alors que j'essaie de présenter tranquillement un film. Un film donc qui parle de la bipolarité, puisque c'est l'histoire d'un fils qui doit gérer la maladie de sa maman. Un fils donc d'une trentaine d'années qui est fleuriste et qui va devoir être confronté à sa mère qui l'a placé dans un centre psychiatrique depuis 2 ans. Pour vivre lui-même sa vie de jeune adulte, et qui en fait se rend compte que cette solution n'est pas viable lorsque sa mère s'échappe de ce centre. Enora, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Alors, ce film n'est pas bipolaire, il est juste nul. J'ai vraiment détesté, je le dis d'entrée de jeu. Je pensais que ce serait juste une petite comédie mineure, mais dans lequel on passe un bon moment, et moi j'ai pas du tout aimé, parce que j'ai trouvé que tout était cousu de fil blanc. On s'attendait, tout était prévisible en fait. Y a des moments où je me suis amusée à me demander ce qui allait se passer ensuite, et c'était exactement ce qui se passait, donc aucune surprise. Et puis il y avait beaucoup de plans inutiles aussi. À un moment, il roule sur la route, évidemment, et il y a un plan de la route. Voilà, et juste après, il va dans une station-service. Alors, ils auraient pu juste mettre le plan sur la station-service, et ils mettent un plan sur le fait que les litres, qu'il y a de plus en plus d'argent qui est demandé, enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment inutile. Après, la performance d'Agnès Jaoui est quand même assez bien, elle joue quand même quelqu'un de bipolaire. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça dommage. Après, c'est un premier film, faut peut-être être indulgent.
Non mais arrêtez là, putain, hein, vous faites chier, c'est un premier film.
Mais bon, hein, Télérama a mis 3T, j'étais très déçue de leur critique, donc voilà. Êtes-vous d'accord avec moi?
Bah oui, tout à fait. Non, en fait, en sortant, je me suis dit, bon, il y a quelques bonnes idées, mais voilà, ça marche pas. Et finalement, non, en fait, avec ça du recul, c'est clairement mauvais, mais mauvais tout court. En fait, je pense que j'ai été super déçue, même par Agnès Jaoui, que pour le coup, j'adore vraiment. Et là, je trouve qu'elle est... En fait, ses dialogues, tout, je trouve que c'est dans l'excès. C'est un film qui est lourd, qui est un peu grossier. Et puis, c'est une caricature de la maladie mentale, quoi.
C'est
dommage.
C'est bête.
Ouais, le sujet était hyper intéressant. Et là, j'ai l'impression que c'est caricatural. Ça y va avec les gros sabots. Ça nous dit qu'en pleurer avec une scène sur la plage, avec le coucher de soleil, la petite musique derrière. Enfin, s'il vous plaît, quoi. On a des scènes sur... dans le cimetière, un gros plan sur les feuilles sur les fleurs mortes et après un gros plan sur le bouquet de fleurs vivantes à la fin. Enfin,
c'est une métaphore, t'as rien compris au film en fait. Mais en fait, c'est une métaphore de.
Ouais, c'est vraiment. En fait, c'est un petit peu malaisant à voir quoi. Au bout d'un moment, on se dit.
Ah oui, carrément.
Voilà, je sais pas.
Écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous, juste pour le plaisir. Non, en plus il y a deux minutes j'ai craché sur ce film allègrement, donc non, j'ai trouvé ça moins mauvais que vous ne le dites. Bah, tu parles des plans
moins
sur les
fleurs. Moins mauvais que la salle des profs.
Beaucoup moins mauvais que la salle des profs en réalité, mais. Non, mais
très différent.
Ça n'a rien à voir.
Très différent, effectivement. Non, mais tu parles des plans sur les fleurs, etc. Moi je trouve que pour le coup, ce côté. Enfin, tout le thème des fleurs dans le film, bah, tout simplement, est cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de thème très simple, mais qui métaphore un peu bateau, mais enfin, qui donne une unité visuelle et thématique au film que j'ai trouvé assez cool. En plus, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de l'assistant du fleuriste. Enfin, leur relation, j'ai trouvé que c'était pour le coup un personnage assez réussi, un personnage comique qui servait pas à grand chose.
C'était
mais
le moins pire quoi.
Il servait à rien quoi. Enfin,
oui, il servait pas à grand chose, mais j'y viens.
Il passait trois coups de fil pendant le film, ils ont rigolé.
J'y viens. C'est un film qui a de grosses faiblesses scénaristiques, notamment le personnage d'Alison Wheeler qui est censé être sa meilleure amie, je sais pas quoi. On a l'impression que c'est qu'il a couché avec elle deux minutes. Enfin, c'est absolument bâclé.
Bah, il l'a couché
avec elle.
Peut-être plus.
Et que ça a duré deux minutes.
Oui, mais ils ont une relation, ils ont une vraie relation. Enfin,
oui.
Voilà,
mais c'est très bizarre cette relation où ils sont censés être meilleurs amis et ils se voient. T'as l'impression que c'est un plan cul rencontré la veille.
Merci de l'avoir formulé mieux que moi. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, cette relation qui est censée être une relation effectivement plus profonde qu'un plan cul est très bizarrement écrite et en fait très mal écrite.
Une relation avec un plan cul ne peut pas être profonde.
Bah non, mais on peut en parler. Maintenant, il n'y a plus honte sensuelle, donc on va prendre la relève, ok?
Donc voilà, moi j'ai trouvé de grosses faiblesses scénaristiques. Cela dit, moi j'ai trouvé de grosses faiblesses scénaristiques, mais quand même des dialogues qui sont, j'ai trouvé, pas mal écrits. Et moi, là où je te rejoins un peu, c'est sur la caricature de la maladie mentale. Effectivement, on a 40 minutes du film, on a l'impression que c'est super d'être bipolaire, elle est super drôle et elle s'en fout, elle a une vie trop cool et elle a kiffé sa vie, elle a vécu, comme on dit. Et puis les 40 dernières minutes, elle est dépressive. Comme si la bipolarité était, enfin, moi je suis pas une experte, mais je me doute que c'est une...
Mais je vais quand même dire des trucs avec un ton expert, parce que j'en ai rien à foutre. Bon, du coup, je suis d'accord avec Valentine. oui, non, globalement, en fait, je sais pas, est-ce que quelqu'un qui a aimé veut apporter un twist, ou personne n'a aimé?
J'ai pas vu, je crois que personne n'a aimé, t'es la dernière, non?
Ah, bah c'est tout. Ok, bah écoutez, je vais vous rejoindre tout à fait. Je trouve que c'est un film, alors caricatural déjà, parce qu'effectivement on nous montre les deux versants de la bipolarité en l'espace de 12 heures, ce qui, je pense, moi non plus je ne suis pas experte.
Enfin, le film ne dure pas 12 heures, hein, je tiens
merci
à préciser.
Non mais en 12 heures de vie quoi. Oui, je crois que les phases sont un peu plus longues que ça. Et puis au-delà de ça, c'est un récit qui est très peu personnel, je trouve. En fait, j'ai l'impression que n'importe qui aurait pu faire ce film sans avoir de lien, enfin, de relation, en tout cas d'histoire, sans avoir d'historique avec cette maladie. Et c'est tous les lieux communs d'un portrait, ouais, de cette femme malade. À ça, l'image effectivement est pas, après de là à dire que c'est des plans inutiles, enfin je veux dire c'est un parti pris esthétique, tu aimes ou tu n'aimes pas, moi j'aime pas personnellement, après je me permettrais pas de dire que c'est inutile parce que c'est vraiment craché sur son travail.
J'ai trouvé qu'il y avait quelques plans qui ne servaient à rien.
Oui, mais ce que je veux dire, c'était c'était la tournure esthétique du film, de prendre des plans fixes comme ça. C'était des récurrences qui faisaient un espèce de truc de rythme. Non, mais bon, par ailleurs, j'ai pas aimé, mais. Mais voilà, et puis voilà quoi, non, un film pas terrible, pas très drôle, pas très triste. En fait, j'ai trouvé que c'était. Alors, je sais que la référence ne fait pas très grande cinéphile, mais c'est un peu Mommy de Dolan, mais pris à l'envers, donc les deux rôles inversés. Et c'était pas tout à fait gratuit parce qu'en fait, on retrouve pas mal de scènes. La scène du karaoké, la scène de. Du road trip en voiture, et en fait, il y a des motifs un peu comme ça qui sont dans les deux films, mais le Mommy de Dolan était bien mieux réussi. Voilà.
Donc, allez voir Mommy.
Allez voir Mommy, bon, par ailleurs, voilà, mais.
Non, et aussi un coup de gueule sur les plans de dos. Enfin, je sais pas d'où vient cette idée, mais on les a dans la voiture, et après, on a les mêmes sur la plage. C'est-à-dire, ils filment un personnage. On le voit donc à moitié de dos et après l'autre. Et ouais, c'est assez gênant quoi.
Moi j'ai une théorie, c'est que Agnès Jaoui n'était pas assez disponible pour ce tournage. Donc il y a plein de plans. En fait, c'est la doublure d'Agnès Jaoui qui s'appelle, Agnès Jaoui.
Janon, t'aurais dû dire Janon.
Non, et puis il y a quand même tout un tas de scènes. Enfin, je veux dire, c'est des lieux communs du cinéma. Enfin. La chanson Eve, lève-toi dans la voiture, quoi. Enfin, je suis en mode.
Ah, je l'ai dans ma tête.
Moi, j'ai bien aimé cette scène.
Non, enfin, voilà, on l'a vu 15 fois. En fait, ouais, je trouve que ce film, pour citer quelqu'un, c'est un film qu'on a déjà vu, mais en moins bien. Voilà.
C'est con, l'affiche était belle. Enfin, elle était pas horrible.
Ouais, et même la bande-annonce, c'était.
Mais c'est ça nos critères.
La bande-annonce,
c'est vraiment
mauvais.
Con, l'affiche était pas absolument atroce.
Ah, je sais pas, parce que.
Voilà, c'était Popcorn salé. On vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir.